Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir, en prenant toutes les précautions nécessaires, bien sûr, reprendre les enregistrements avec mes invités sur In Power. C'était vraiment pas la même chose que de le faire à distance, tant au niveau de la fluidité de la conversation que de la qualité sonore, donc je suis vraiment heureuse de vous présenter ces nouveaux épisodes. Aujourd'hui, je vous présente Steve Ungponu, créateur de contenu et multi-entrepreneur. J'ai rencontré Steve il y a quelques mois par des amis communs et j'ai vraiment été interpellée par son histoire, alors je le remercie sincèrement de s'être autant livré dans cet épisode. Ayant grandi au Bénin, dans une famille de 9 enfants, né avec une malformation et une maladie qui touche ses articulations, c'est pourtant au métier de footballeur que se destinait Steve, très tôt repéré par des recruteurs qui l'emmènent dans un centre de formation en France. Pourtant, après une chute lors d'un match à l'âge de 14 ans, on annonce à Steve qu'il ne pourra jamais plus marcher. Son père pourtant se refuse à croire cette réalité, et avec l'aide d'un kiné et la détermination de Steve, il parvient à remarcher 2 ans plus tard. C'est alors vers le monde de la mode que Steve décide de se tourner. Pourtant, son parcours ne se passera pas comme il l'avait imaginé. Victime de racisme, Steve quitte le monde du luxe pour lancer sa propre marque de vêtements, Black Hats Paris, et développe également son métier de créateur de contenu, conseiller en communication, formateur et conférencier. Si vous appréciez InPower, c'est en s'abonnant directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts que vous pouvez me le faire savoir. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter InPower et à me partager tout ce que cela vous apporte au quotidien, ça me touche vraiment beaucoup. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Steve. Bonjour Steve.
Salut Louise, comment vas-tu?
Écoute, ça va très bien, c'est un peu le début d'une nouvelle ère, hein, aujourd'hui qu'on entame ensemble. Okay. Écoute, je sais que nous on se connaît déjà, donc ça va être un peu plus simple pour moi de mener l'entretien. Est-ce que pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Ok, merci beaucoup. Écoute, je m'appelle Steve Ungponu, on va pas dire mon âge. Je m'appelle Steve Ungponu, j'ai 35 ans. Je suis entrepreneur depuis, ça va faire 8 ans maintenant. J'ai une marque de vêtements, donc du coup, qui s'appelle BHP. BHP pour Black Hats Paris. J'ai une société de communication, donc qui s'appelle Steve HKCom. Et ensuite, je suis formateur et je me suis découvert ces talents-là pendant le confinement. Ça faisait déjà un moment que je le faisais, mais j'ai vraiment poussé ça pendant le confinement et j'ai une société de formation où j'apprends aux personnes, pas à pas, comment lancer leur entreprise. Voilà. Et puis, quoi te dire de plus sur moi? J'ai commencé parce que j'ai une histoire singulière sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai lancé tout ça grâce aux réseaux sociaux, mais je pense qu'on va beaucoup plus développer.
Ouais, donc, écoute, voilà. Déjà, est-ce que tu peux nous dire si, quand tu étais petit, c'est ce à quoi tu te destinais? Et qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là? Parce que je crois que tu n'es pas devenu entrepreneur direct, tu vois, après non. Tes études. Tu es d'abord passé par le salariat. Donc, est-ce que tu peux nous dire, comment tu imaginais ton avenir quand tu étais plus jeune?
Alors, faut savoir que je suis né au Bénin. Donc, le Bénin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit pays en Afrique de l'Ouest. À l'époque, c'était 12 millions d'habitants. C'est pas beaucoup plus aujourd'hui, je pense. Ça doit être 15 ou 20 millions d'habitants. Et je suis né dans une petite ville qui s'appelle Cotonou. Donc, en fait, au Bénin, j'ai grandi. C'est marrant parce que j'ai grandi avec mes parents qui étaient dans le salariat, mon père dans le salariat qui est devenu entrepreneur ensuite, et ma mère qui a tout de suite été entrepreneur parce qu'elle n'avait pas le choix, parce que c'est un autre système de vie. Et au début, j'avais mes rêves, c'était d'être footballeur. Faut savoir que j'étais très doué dans le football. Au début, je suis arrivé en France justement pour jouer au football parce que j'étais en centre de formation à Auxerre. Auxerre qui était un très grand club à l'époque, qui était dans les 3 premiers du championnat. Je m'éloigne de ta question.
Ah non, mais j'adore, justement, okay. Raconte-nous ça. Okay. Est-ce que tu as été repéré au Bénin, du coup, et on t'a proposé d'aller en France?
C'est ça.
Seul, du coup, ou avec ta famille?
Seul. Okay. En fait, si tu veux, je suis né au Bénin. Je suis né avec une malformation génitale, puisque j'ai une maladie qui s'appelle HLA-B27. Donc, du coup, c'est de la spondylarthrite ankylosante qui touche les articulations, qui fait que selon un changement de température, tu peux... Enfin voilà, c'est de l'arthrose. J'appelle ça la maladie de vieux. C'est l'arthrose qui peut être très, très, très poussée, tu vois. Ça s'était pas déclenché à l'époque. Je jouais au football. J'étais plutôt très, très doué pour jouer au football. Mais j'avais un petit problème d'écart parce qu'en fait, quand je marchais pas très droit. Donc, les enfants qui sont méchants se foutaient un peu de ma gueule quand j'étais petit. On m'appelait le lézard parce qu'en fait, il y a plein de lézards au Bénin. Donc, par leur façon de marcher, on m'appelait comme ça. Mais en fait, le seul moyen pour moi de m'échapper, c'était quand je jouais au football ou alors tout le monde me regardait jouer. Et donc je jouais avec mes camarades de classe qui n'aimaient pas trop jouer avec moi. Mais par contre, dans mon café... En fait, si tu veux, le Bénin, t'as des petits quartiers, donc en fait, t'as des rues. En gros, t'as des voitures qui traversent les rues. Et en fait, on mettait deux briques et on jouait dans le quartier, tu vois. Mmh. Donc, avec les copains, j'étais très, très bon. Et surtout, mes parents, ils sont originaires du Bopa, qui est une ville au sud du Bénin, qui est un village d'ailleurs, une toute petite ville. Et c'est un peu comme si t'es parisien, tu vas en province. Donc, là, j'avais un peu plus d'attention quand j'allais là-bas. Et là, je jouais. En fait, là, je pouvais beaucoup plus m'exprimer. Et en fait, c'était un mec qui était le recruteur de OCR, qui était venu en fait parce qu'il faisait un jumelage entre la ville de mon père, Bopa, et une ville à côté d'OCR. En fait, ils sont venus pour faire le jumelage. Et c'est là qu'il a repéré, il a dit à mes parents, en fait, votre fils, il a un talent, il faudrait vraiment le laisser jouer. Et au début, mes parents, ils voulaient pas, parce que, alors, faut savoir que je viens d'une éducation africaine, tu fais tes études... C'est les cases, tu vois. Donc, mes parents, ils voulaient pas du tout. Et ma mère, bizarrement, qui vient de cette éducation aussi, a dit, bah, écoute, pourquoi on le laisse pas faire? Au pire, s'il se plante, il reprendra ses études. Et mon père, il voulait pas du tout. Et finalement, ils m'ont laissé partir et je suis parti tout seul.
À quel âge, du coup?
14 ans.
Ok.
Ouais, 14 ans. Donc, c'est vrai que ça fait... Enfin, mon père m'a accompagné pour visiter les installations, pour voir comment ça se passait. Mais une fois qu'il a visité, il est rentré au Bénin parce qu'il avait ses activités au Bénin. Et je me suis retrouvé tout seul, jouer au foot avec des rêves où je me suis dit, j'ai envie d'être footballeur. Je me voyais déjà jouer pour l'équipe nationale du Bénin. Enfin bref, avec plein de rêves. Et en fait, je suis en sport études. Et en fait, on faisait plusieurs tests parce qu'on est plusieurs, c'est beaucoup de concurrence. On faisait plusieurs tests. Et pendant un test, pour aller encore au niveau au-dessus, pour présélectionner encore d'autres personnes, je me blesse. En fait, c'était le. Faut savoir que je jouais arrière latéral gauche. Je sais pas si tu connais un peu le football.
Un peu. Mais je pense que ça parlera plus à ceux qui regardent.
Arrière latéral gauche, ça va être. Pour ceux qui ont regardé la Coupe du Monde, j'ai oublié son nom. Mais bref, ça va être Patrice Evra en termes de modèle. Des personnes comme ça, c'est les gens que Google. Donc, je joue arrière latéral gauche. Donc, le caractère principal, c'est que je courais très, très, très vite. Et j'étais très bon en centre. J'ai fait un très bon match jusqu'à un moment où je me fais tacler, je tombe. Et la personne qui me tacle, je me souviens encore, c'est marrant parce que j'ai encore l'image dans la tête, la personne, elle tombe sur moi et je me relève plus. Donc, c'est-à-dire que j'essaie de me lever, je me relève plus, grosse douleur, j'avais mal au niveau de la hanche. Et donc, on me porte une civière, on me ramène à l'hôpital. L'hôpital, on me dit, OK, on va te laisser te reposer un petit peu. Ça va aller. Je reste un jour, deux jours à l'hôpital. Rien du tout. J'arrive même pas à me lever pour marcher.
Ouais, tes muscles répondent plus, en fait.
Ouais, exactement. Mes muscles répondent plus, mon corps ne répond plus, je ne comprends pas, tu vois. Et c'était horrible. Donc, pour aller aux toilettes, il me portait. Pour que j'aille aux toilettes, c'était horrible. Et ce qui s'est passé, c'est que mes parents, pendant un moment, ils n'ont pas dit à mes parents. Ils avaient peur de leur réaction ou ils pensaient que ça allait aller. Et du coup, mes parents, ils l'ont su. Donc, mon père, il vient et il dit, écoute, là, on est au CER. C'est peut-être pas les meilleures conditions pour se soigner. On le ramène à Paris. Donc, il appelle tous les hôpitaux. Enfin, bref, on prend un peu de temps à trouver des rendez-vous. Mais bref, il arrive à... En fait, il a enchaîné mon père. Il faut savoir qu'il aime bien consulter plusieurs personnes pour avoir plein d'avis, tu vois. Donc, on arrive à trouver des rendez-vous, dont le rendez-vous avec le professeur Saillant, qui était à l'époque... c'était en 98. Donc, c'était en juillet 98. C'était le médecin qui avait opéré Ronaldo, parce que Ronaldo, parce que je dis le vrai, pas celui d'aujourd'hui... Ronaldo s'était blessé. Il s'était blessé pendant la. Enfin, à plusieurs reprises, et c'est lui qui l'avait opéré. Donc, on va chez. Bref, on consulte tous les professeurs qui disent tous la même chose. Votre tris, il ne marchera plus, laissez tomber, c'est fini. Donc, toi, à ce moment-là, en tout cas, tu as un enfant, tu as 14 ans, tu viens pour jouer au football. Donc, non seulement tu apprends que tu joueras plus au football, mais j'apprends que c'est fini, en fait, que je ne marcherai plus, tu vois. Et mon père, il fait, écoute, on va en voir d'autres, tant qu'on n'a pas vu le meilleur. Enfin, ils fondaient beaucoup d'espoir sur ce professeur-là. Et il lui dit, ben écoutez, c'est fini, votre enfant il marchera plus. Enfin, faut pas chercher. Enfin, en tout cas, il lui dit pas. Il utilise un peu les formes pour le dire, mais en gros, il dit, faudrait vous rendre compte à l'évidence, c'est fini. Et donc, mon père, je le vois, il se fige, il dit rien. Et on sort de l'hôpital. Avant, il demande au médecin, mais est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'il puisse remarcher? On fait, ben écoutez, si vous voulez, en fait, on va l'opérer. J'avais 1,5 cm de différence entre mes jambes. Donc, on va corriger cette différence de 1,5 cm et on va lui mettre une prothèse de hanche, ce qui pourra peut-être aider à ce qu'il puisse être assis, etc. Et du coup, mon père, il me dit, écoute, c'est un test. En fait, il dit ça pour voir si tu peux vraiment te lever, si tu peux marcher. Et donc, les coups de pas, c'est vraiment, on est en train de te tester. C'est des épreuves de la vie. Et je pense que c'est cette phrase qui a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Parce que je croyais vraiment ce que mon père me disait. Et comme quoi, c'est les croyances qui te font...
Ouais,
avancer, exactement.
Notre vie, c'est clair.
Ouais. Et donc, du coup, pour moi, c'était un test. Et du coup, on m'a opéré, on m'a mis une prothèse de hanche. Ça s'est compliqué. 6 mois après, j'ai une deuxième prothèse de hanche. Et du coup, j'ai fait de la rééducation. Pendant un moment, j'étais couché, j'arrivais pas à me lever. Ensuite, j'ai réussi à m'asseoir, ce qui était une victoire pour moi. J'étais en centre de rééducation à Viry-Châtillon, avec des personnes handicapées, avec des personnes très âgées, qui étaient résignées, qui ne faisaient pas plus d'efforts que ça. Et la chance que j'ai eue, parce que je pense qu'on prend toujours quelqu'un qui change notre vie, il y avait Nicolas, c'était un kiné, enfin une personne qui était en apprentissage kiné, qui croyait en moi, qui voulait m'aider. Et en fait, si tu veux, on lui interdisait de m'emmener à la piscine, on lui interdisait de m'emmener en salle de rééducation pour que je puisse marcher, mais en fait, si tu veux, cette personne-là m'a accompagné. C'est-à-dire qu'il surveillait, enfin, il avait sa copine qui était infirmière, donc c'était un peu... elle devait surveiller qu'on ne vienne pas dans la chambre, donc il m'entraînait à marcher, il m'emmenait à la piscine, et j'ai fait énormément de piscine, et c'est là où j'ai réappris à marcher. Et si je n'avais pas cette personne-là avec moi, plus la volonté, je pense que ça aurait été compliqué aujourd'hui.
Et pourquoi est-ce qu'il lui interdisait de t'emmener à la piscine ou de t'emmener au centre de rééducation?
Parce que, en fait, si tu veux, pour eux, c'était... Bah, vu que les diagnostics disaient que c'était impossible, que je n'allais pas remarcher, ils disaient que c'était pas à lui de le faire, qu'il avait plus...
Il fallait mettre son énergie ailleurs.
Exactement, exactement. Qu'il fallait plus aider d'autres personnes que m'aider moi à, voilà, c'est ça, à mettre son énergie ailleurs. Et en fait, si tu veux, j'ai eu la deuxième prothèse parce que j'ai essayé très vite de me lever et j'ai fait une rechute. C'est pour ça qu'on m'a remis une autre prothèse de hanche. Donc ils avaient peur que je...
Que tu fasses pas.
Exactement.
<tes prothèses.
rire> Exactement. Ouais, okay. Mais la chance que j'ai eue, c'est que Nicolas était là et... Et voilà, donc au bout de 2 ans, j'ai réussi à marcher. Et c'était ma première victoire. Et pendant toute cette période-là, donc du coup, j'ai mes parents qui faisaient l'aller-retour, j'ai ma mère qui venait et mon père qui venait aussi, ils se succédaient. Et un jour, ma mère m'achète un magazine. Et dans ce magazine-là, il y avait Yves, j'entends parler pour la première fois de Yves Saint-Laurent. Je ne connaissais pas du tout la mode. Apparemment, quand j'étais tout petit, je prenais les poupées de mes sœurs, je les découpais, je leur faisais... En fait, ma mère, elle vend du wax, donc les tissus d'origine hollandaise, mais qui sont africains, très présents en Afrique. Et en fait, elle m'engueulait parce que je coupais ces tissus de wax et je cousais, je faisais des vêtements pour les poupées de mes sœurs, tu vois, déjà à l'époque. Et bon, après ça, je l'ai oublié à un moment et mes parents ne voulaient pas trop que je le fasse aussi. Pareil, Afrique, c'est pas un sport, c'est pas quelque chose de viril pour un garçon de faire ça.
Ouais.
Ce qui est une connerie, mais bon, voilà.
Ouais. Les idées reçues, on la vit dur.
Exactement. Exactement. Donc, je continue. Je me découvre une passion pour cet homme, pour Yves Saint-Laurent. Ouais. Et en fait, je dis à ma mère, je vais être le nouveau Yves Saint-Laurent. Je lui dis, je vais être le Yves Saint-Laurent noir. Et au début, ça l'a fait rigoler, elle rigole. Et je pense que j'ai grandi avec ça, tu vois. Je lui ai demandé qu'elle m'achète énormément de choses. Je me suis documenté. J'ai regardé plein de cassettes de Saint-Laurent. Et Saint-Laurent, c'est un modèle que je suis aujourd'hui, tu vois. Avec Pierre Berger, j'aime bien ce modèle entrepreneurial où tu as une personne qui est consacrée sur le design et l'autre qui est vraiment sur le côté finance-business, tu vois. C'était vraiment un beau binôme. Et puis même sur les collections. Mais je ne sais pas pourquoi je te parlais de ça.
Bah parce que tu me disais que à ce moment-là, il a fallu te reconstruire et t'es un peu du coup tombé dans la passion de la mode.
Exactement.
En renonçant, au final, en faisant un peu le deuil de ton rêve de football, quoi.
C'est ça.
Et ça, de là, ce que tu nous décris, je retiens surtout la détermination et la faim que t'avais l'air d'avoir à te reconstruire. Mais quand même, psychologiquement, ça a dû être hyper difficile, non ? De non seulement ne plus savoir si t'allais pouvoir remarcher, mais en plus de dire que ton rêve s'effondrait, comment ça s'est passé, tu vois, juste psychologiquement, ouais. Et tu vois, comment t'as fait même pour pas tomber en dépression, ce qui aurait pu totalement se comprendre quand un jeune voit ses rêves s'envoler, quoi.
Mmh. Bah, j'ai eu des moments qui étaient durs, mais honnêtement, c'était, pour moi, c'était un peu normal dans le sens où j'ai ma mère qui a été orpheline à 12 ans, son père qui l'a abandonné, qui l'a laissé vivre tout seul. Et ma mère nous racontait qu'elle allait, on a été avec elle voir, elle allait sur des tas d'ordures chercher à manger. Donc quand ta mère te dit ça, elle me dit écoute, je me suis mariée très tôt, elle s'est mariée à 18 ans ou 19 ans avec mon père, je me suis mariée très tôt avec votre père, je l'aimais, mais bon, je voulais aussi une sécurité parce que j'ai toujours, mouru de faim, j'avais pas de quoi manger. Et mon père, mon grand-père a été pêcheur. Tu vois, en fait, c'était le système où, en fait, il allait pêcher. Il mangeait que du poisson, ou en fait, ils échangeaient du poisson contre la nourriture. Ils ont vécu ils ont eu des situations très compliquées. Mon père, il a marché pendant 2 ans de son village. Pendant 2 jours de son village.
Je le voyais marcher pendant 2 ans.
Non, pardon. Pendant 2 jours, 2 ou 3 jours, je crois, de son village vers la capitale. Parce qu'il n'avait pas d'argent pour prendre une voiture, pour prendre un bus, et que, en fait, mais il savait qu'il fallait être dans la capitale pour pouvoir avoir une meilleure situation, tu vois. Donc, ils nous ont éduqués. Enfin, j'ai 8 frères. On est 9. Oui, j'ai 2 grands frères et 6 sœurs, donc on est 9. Et mes parents, ils ont commencé à avoir les moyens de pouvoir me gâter un petit peu quand je suis né. Donc, t'as une différence entre mon grand frère qui m'a raconté qu'il allait chercher de l'eau, il fallait qu'il marche pendant des kilomètres pour aller chercher de l'eau, rien que pour se laver, rien que pour manger. Enfin, pour moi, c'était un truc de dingue.
Ouais.
Et donc, je me suis dit, j'ai pas le droit de me plaindre, en fait, parce que moi, ça va. Enfin, je peux manger à ma faim. Je peux manger des fruits, je peux manger un dessert. Enfin, pour moi, c'était déjà... Pour eux, c'était exceptionnel que j'ai ça. Alors que eux, au début, ils n'avaient pas connu ça, tu vois. Donc, je pense que c'est l'entourage qui a fait que j'ai gardé le moral. Et ma mère me disait, écoute, moi, j'ai failli mourir de faim. Là, t'as de quoi manger, ce qui est déjà l'essentiel. Et mon père, pareil, me disait que c'était compliqué pour lui, que tant qu'il y avait de la vie, en fait, ils étaient la preuve qu'il y avait de l'espoir et qu'il ne fallait pas que je lâche. En fait, je pense que c'est ça, la preuve de résilience, d'avoir mes parents qui m'expliquaient ça.
Okay.
Après, il y a eu des moments où c'était très compliqué, où je pleurais, où je croyais pas. J'y croyais pas, en tout cas, j'avais des périodes de down, mais tout de suite, j'ai de la chance parce que mes parents, même au Bénin, ils m'appelaient tous les jours. Et ils me disaient, tu vas y arriver, tu vas marcher, ça va prendre du temps, mais et le fait de me coacher, de me dire ça, pour moi, c'était possible.
Ouais.
C'était possible, et donc, du coup, c'était juste une étape de la vie. Et en fait, j'ai une mère qui est très catholique et très croyante aussi, qui me disait que c'était une épreuve de Dieu. J'ai un autre rapport aujourd'hui avec la religion, mais bon.
Ça t'aidait beaucoup à l'époque, d'avoir, en fait, la foi de tes parents dans le fait que tu pouvais remarcher. Ils te l'ont transmise, quoi,
c'est
en fait.
Un peu.
Non, mais c'est hyper puissant. Et je me demande, depuis que tu nous as dit que ton père avait dit que c'était un test, tu penses que lui, c'était une stratégie volontaire de sa part de te dire ça pour que toi, tu conditionnes un peu ton cerveau à penser qu'il fallait que tu réussisses ce test ?
Je pense qu'il a dit oui. Enfin, clairement, il a dit pour... Alors aujourd'hui, il me dit toujours qu'il y croyait. Mais honnêtement, je pense que c'était une condition, exactement. Je pense qu'il a dit pour que je puisse y croire. Mais après, mon père, c'est l'un de mes modèles parce que c'est une personne qui n'abdique jamais. Tu vois, mon père a toujours... peu importe les difficultés, mon père ne lâchera pas. Enfin, il se bat tout le temps. Donc, c'est aussi une partie... Enfin, je pense que c'est aussi une partie de sa personnalité qui veut nous transmettre, tu vois. Enfin, mon père, il est né dans son village là, Bopa. Il a marché pour venir dans la capitale. Il a fait des cours par correspondance. À l'époque, il était mécanicien. Il a fait des cours par correspondance pour apprendre la comptabilité. Il a réuni des économies pour partir en Italie. Il était parti à Florence, je crois, à l'époque, pour travailler pour une société pétrolière. Ensuite, il est rentré. Enfin, le mec, il pousse. Il va toujours au bout des choses. Et je pense que Peut-être qu'il me disait ça pour moi, pour que je puisse y croire, mais...
Mais pour lui, en fait, si jamais ça se passait... Enfin, il faisait en sorte que ça se passe comme il le souhaite.
Exactement,
quoi.
C'est ça.
Ouais, ok. Ouais. Trop cool. Bon, est-ce que du coup, pour en savoir plus sur la suite, tu peux nous dire quand est-ce que tu sors de ce centre et quels sont tes next steps, quoi, une fois que tu reprends une vie plus ou moins normale?
Bon, écoute, je sors du coup en 2000, 2 ans après... De cet hôpital, donc je reprends mes études. J'ai continué mes études entre temps.
Ouais.
J'étais par correspondance, donc je reprends mes études. J'ai une vie qui est à peu près normale. De temps en temps, j'ai des rechutes, je prends mes béquilles et je continue mes études jusqu'à le deuxième test. Et ça a été en, je sais plus, je suis à Cambridge.
Ouais.
Parce que je fais un échange et j'ai à Cambridge pour faire mes études, pour faire ma licence. Ah non, juste avant, j'ai mes vieux démons qui reviennent. Donc je dis à mes parents, bon, je n'ai pas pu être footballeur, je vais rentrer dans une école de mode après mon bac. Et mes parents me disent, bah non, enfin tu peux, enfin mon père surtout, c'est pas viril, tu peux pas faire ça.
Il le dit cash comme ça, il te dit pas, je sais pas, c'est pas un milieu safe, il te dit c'est pas viril.
Ah ouais, mon père, il est très.
ouais,
je l'adore, mais mon père,
c'est. C'est la culture.
Exactement,
quoi.
C'est ouais. La culture, tu vois, c'est indie, enfin je vais pas dire le mot là, mais.
En fait, je comprends l'aspect culturel, voilà, qui pèse beaucoup. De l'autre côté, c'est un peu surprenant quand on connaît l'état d'esprit que tu nous as décrit.
Ouais.
Pour lui, si tu te mets une idée dans la tête, c'est le travail, j'ai l'impression qu'il paye. Et en fait, il l'appliquait pour lui, mais pas pour toi.
Exactement. Et tu verras, en fait, avec l'expérience, il y a un contraste aussi avec mon père, tu vois.
Ouais.
C'est que, en fait, il avait son idée des choses. Et il fallait suivre ses idées. Donc, je pense que pour lui, la santé, c'était important. J'allais y arriver, mais en fait, si tu veux, à un moment de mes études, enfin mon père, il était salarié, il est monté petit à petit. Ensuite, il a lancé son entreprise d'import-export de pétrole qu'il était en train de développer. Et en fait, il avait un rêve que je reprenne ça.
Mmh.
Et c'était son rêve à lui, tu vois.
Ouais.
Bon, à l'époque, je m'affirmais pas assez pour lui dire que c'était son rêve à lui, mais moi, je voulais pas du tout le faire.
Ouais.
Donc, en fait, au début, je commence cette école de mode, mais en fait, si tu veux, il m'a laissé faire. Hein.
Mmh.
À côté, heureusement, quoi, il y avait la merde d'un côté, il faut dire, écoute, laisse-le faire.
Ouais.
Mais pendant, enfin, tous les jours, mon père et en fait un autre de mes frères, parce que j'ai deux grands frères. J'ai un autre de mes frères qui m'appelait tous les jours en me disant « Quand est-ce que tu vas quitter cette école ? C'est pas pour toi. »
Ouais, donc il y a une pression mentale.
Exactement.
Assez élevée, quoi.
Exactement. Donc à un moment, je finis pas mes concours. J'étais à Modesta, je finis pas mon concours. Enfin, je finis pas l'année et j'arrête. Donc je fais un DUT en gestion d'entreprise parce qu'il fallait reprendre le flambeau.
Ouais.
Et je fais mon stage en compta, le deuxième stage en ressources humaines. Enfin, je me rends compte que ni la compta ni la ressource humaine, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de le faire. Et pour moi, la seule façon de pouvoir vivre ma vie et m'éloigner, c'était de partir à l'étranger. Et il ne voulait pas que j'aille trop loin. Et en fait, je postule, je regarde un petit peu. Et en fait, j'ai été pris à Cambridge. Donc, Cambridge, j'étais en Angleterre. Il faut savoir que mes parents, enfin, ils sont béninois, ils ne sont pas français.
Mmh.
Donc, autant ils ont le réseau pour venir en France. Et pour aller en Angleterre, ils auraient pu l'avoir, mais c'est beaucoup plus compliqué, tu vois, en termes de documents et tout.
Surtout que c'est très cher, les études en Angleterre.
Ouais, carrément.
Ouais. Ouais. Il y avait des bourses ou...
En fait, j'ai une partie qui était la bourse, et en fait, mes parents, ils ont payé... Par contre, j'avais rien à dire, ils ont toujours payé... Ils ont payé mes études, tu vois. Et après, quand j'étais en Angleterre, je travaillais à côté aussi.
Mm-hmm.
Je travaillais au McDonald's à l'époque. Et je leur disais pas parce que je voulais pas leur demander.
De l'argent en plus.
Exactement, de l'argent en plus. Parce que déjà, c'était, je sais plus combien c'était, mais c'était excessivement cher. Surtout quand t'es étranger, parce qu'à l'époque, j'étais encore béninois, j'étais pas encore français. Donc c'est excessivement cher et ils voulaient pas, enfin je voulais pas en rajouter, tu vois. Donc bref, donc je suis tout seul, donc ils viennent pas en Angleterre. Et en fait, c'est en Angleterre, je me suis révélé à Cambridge, où déjà dans le système de travailler, tu vas faire tes recherches, t'es libre.
Livré à toi-même.
Exactement. Et j'ai adoré vraiment cette façon de travailler. Et après, l'année d'après, ils voulaient encore repayer mes études. Je fais, oula, c'est excessivement cher quand même. Je vais rentrer en France, j'ai fait une école de commerce qui était moins chère que Cambridge. En fait, j'adore la mode. Qu'est-ce qui peut se rapprocher le plus ? Je vais faire un master en management du luxe.
Mmh.
Et juste avant, en fait, quand j'étais à Cambridge, quand je sortais du campus, je rentrais pour rentrer chez moi, il y avait un terrain de foot et des gens jouaient au football. C'était pas du tout facile. Ouais. Et en fait, je m'arrêtais, je regardais. Le coach, il a remarqué que je regardais tout le temps. Et il me disait, mets-toi à côté de nous pour voir un petit peu le match. Et un jour, il lui manquait une personne, il me dit, tu veux jouer ou pas ? J'avais pas le droit, on m'avait interdit de jouer. Inconscient, j'ai joué. J'ai commencé à jouer, à m'entraîner avec eux, mais ça se passait plutôt bien. Et donc, il m'a dit, tu sais quoi, tu peux prendre ta licence pour rejoindre l'équipe de foot de Cambridge, de l'université, si tu veux. Donc, je le fais. On me fait une série de tests. Bref, ça se passe bien. Et je me mets à jouer avec eux, mais j'ai fait 3 ou 4 matchs. Et j'ai fait une rechute. Donc, en Angleterre, je ne parlais pas assez bien techniquement pour pouvoir exprimer tout ce que j'avais. Et puis, le système de santé, ce n'était pas comme ici.
Ouais.
Donc, je reviens en France, je me refais réopérer. Et bref, donc là, j'ai compris que le foot...
Mais franchement, je peux comprendre. Hein, quand on est jeune, on n'a pas la sagesse nécessaire. Ouais. On est un peu insouciant, quoi.
On se dit,
je vais mieux, ça va le faire et... Il faut un rappel à l'ordre pour rester dans le droit chemin, quoi. Mais c'est vrai que ça doit pas être facile.
C'était pas facile du tout, tu vois. Donc il y a eu tout ça qui a fait que je décide de rentrer à Paris. Et je fais une école de commerce, je fais l'ISC, j'ai mon master en marketing du luxe. Et je rentre chez Cartier. Au début, j'étais chez L'Oréal en stage. Je fais 6 mois de stage. Très bien, je pensais que j'allais le prix, mais finalement, non. On me dégage quand même malpropre. Non, on me dégage bien avec des cadeaux, mais bon, enfin bref, voilà, on ne me garde pas. Et j'ai eu de la chance parce que je trouve un emploi chez Cartier. Et chez Cartier, je rentre. À l'époque, j'étais... Je ne sais plus en quelle année j'étais. Mais bref, je sors d'école de commerce. C'est mon premier CDI. Et j'étais à 3 500 € net par mois. Qui à l'époque était un truc de dingue, parce que tous mes collègues, ils étaient entre 1 500, je sais plus combien c'était, et 2 000 et 2 500. Et moi, quand je leur donne le salaire, ils me disent mais comment t'as fait ? Je sais pas, j'ai négocié, et puis voilà, ça s'est fait. Et ça a été une année très riche, parce que sur le plan du travail, j'ai énormément appris, j'ai énormément grandi à Cartier. Mais c'était une année où je suis, si tu veux, j'ai grandi, j'étais adolescent, ça a toujours été mes problèmes de santé. J'ai pas été en boîte, je ne me suis pas amusé, c'était vraiment, c'était études, santé. Et même quand j'étais à Cambridge, vu que mes parents, ils payaient, tout ça, j'avais pas le droit de me louper, tu vois. Et en fait, je pense que c'était ma crise d'adolescence, où j'ai commencé à aller en boîte, j'ai commencé à sortir, j'ai fumé mes premières cigarettes là-bas. Je fume plus aujourd'hui, tu vois, mais bref, j'ai fait toutes les conneries pas possibles, si tu veux, à cette époque-là. Et c'était indécent. J'étais. En fait, je sortais, j'avais plus de valeur. Pour moi, un jour, je me suis rendu compte que c'était que l'argent, c'était que les sorties, c'était que des choses futiles. Et je travaillais dans le luxe, donc les conversations que j'avais avec les gens à côté, c'était. T'as vu, il faut acheter cette dernière montre-là, faut acheter ça, faut acheter une paire de loups. C'était d'autres choses. Et j'étais déconnecté. J'étais déconnecté parce qu'en fait, j'avais mes potes qui gagnaient moins ou qui étaient dans d'autres domaines. Tu vois, mon meilleur ami, c'est la RATP, par exemple. Tu vois. Et quand je voyais qu'il y avait un décalage, un jour, j'ai eu un déclic. J'ai dit, je suis en train de rentrer dans un moule et c'est pas moi, ça.
C'est cool que tu aies eu ce déclic. Parce que ce que tu dis est très vrai, parfois on entre dans un univers et sans s'en rendre compte on en prend les codes parce que ça nous fait rêver, parce qu'on se prend au jeu. Et souvent on passe par un électrochoc pas souvent facile à vivre pour réaliser que c'est pas nous, quoi.
Exactement.
Mais toi t'as pas eu ce moment un peu difficile à vivre pour t'en rendre compte, c'est de toi-même un jour tu vois que c'est pas toi, quoi.
En fait, un jour j'étais malade et on devait sortir après le boulot avec mes collègues. Donc vu que j'étais sous antibiotiques et je sais très bien pour avoir été dans les hôpitaux que...
Tu bois pas.
Ouais, je bois pas avec les antibiotiques et tout, je ne bois pas, tu vois. Donc en fait j'ai fait cette soirée-là où j'étais sobre, je n'étais pas bourré. Et je voyais tout le monde tout autour et j'ai trouvé ça malsain. En fait, je pense que ça a été le déclic pour moi cette soirée-là. Et je voyais, heureusement, ça, j'en ai jamais pris. Je voyais des collègues prendre la cocaïne. C'était hyper malsain, tu vois. Mmh. Et je me suis dit, est-ce que tes parents seraient fiers de toi là où t'es aujourd'hui? Non. En fait, la réponse était non, ils n'auraient pas été fiers de toi. Ils se sont pas battus, ils n'ont pas fait tout ça pour que tu gâches ton temps, ton énergie, à sortir, à faire n'importe quoi, tu vois. Et ça a été ça mon déclic. C'était vraiment ça mon déclic et je me suis dit non, c'est pas pour moi. Et à côté, j'avais été embauché par une personne avec qui ça se passait hyper bien. Et en fait, t'avais la directrice, Mind Plus 2, qui est rentrée avec qui ça se passait pas réellement bien, tu vois, avec elle. Et moi, je commençais à me remettre en question en me disant écoute, non, c'est pas pour moi, c'est pas un monde pour moi, faut que je parte. Et ça se passait pas bien avec elle. En fait, je suis en coup de tête. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de coups de tête. Avec un peu de chance, aujourd'hui, ça va.
Ça peut être de l'instinct aussi, hein.
Ouais, peut-être. Et avec un coup de tête, j'ai un désaccord avec elle. Et je rentre dans mon bureau, je prends une feuille et je me prends même pas la tête. Je mets Paris, je mets la date et je démissionne, je signe et je pose ma démission. Elle me regarde, elle me dit t'es sûr, c'est pas parce qu'on s'entend pas que je fais non, mais c'est plus possible, je m'en vais. Et du coup, j'aimerais partir tout de suite, je prends mes affaires et je pars le jour même.
Ah ouais, donc toi, quand on t'en peut plus, tu rigoles pas.
C'est
quoi.
Clair,
ouais.
C'est clair. Donc je pars et en fait, ça a été 6 mois de galère. J'avais un bel appartement, quand tu démissionnes, t'as pas de chômage, je lâche mon appartement, je retourne, mes parents ont acheté un appartement entre-temps, donc je retourne chez mes parents, avec ma sœur, avec mes parents qui venaient, mes frères et sœurs qui venaient avant, donc bref, horrible.
Autre mode de vie, quoi.
Ouais, totalement autre mode de vie, j'ai même plus de quoi vivre, et je me souviens en fait à un moment, mes sœurs n'étaient pas là, j'étais tout seul. Et je voulais vraiment pas demander à mes parents. Et puis dans tous les cas, mes parents, ils ont toujours dit, il faut que tu te débrouilles pour vivre. Ils nous ont toujours responsabilisés aussi, tu vois. Et je me souviens qu'un jour, je me suis dit, mais comment je vais finir ce mois-là? Je sors dans la rue, je marche. Et vraiment, je te dis, je te promets, j'ai même pas un euro. Et comme quoi, le destin aussi, c'est important. Et je rencontre une de mes tantes que j'ai pas vue depuis hyper longtemps, qui est femme de ménage. Et ma tante, elle me donne 10 euros. Tu sais, dans la culture, on me donne un peu de l'argent aussi, comme ça. Elle me donne 10 euros, me disant, c'est rien, mais parce que je t'ai vu, tiens. Et en fait, avec ces 10 euros, je vais à Leclerc, j'achète des œufs et j'achète du pain. Et en fait, j'ai tenu le mois avec ça. Et en fait, à un moment, je me suis dit, heureusement qu'elle était là, cette femme, parce que je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait. Parce que je postulais, je voulais pas trouver un travail alimentaire, je voulais vraiment retrouver un...
Un job à la hauteur de
l'expérience,
des capacités.
Exactement.
Et juste, tu touchais pas des aides de l'État
Rien du tout.
Le RSA, t'avais
pas droit. Si tu veux, à l'époque, je savais pas, moi. Je viens du Bénin, j'ai mon entourage qui est africain, tout ce système-là, je ne le connaissais pas. Mmh. Je savais pas qu'on avait droit au RSA,
Ouais, non, mais c'est pour ça, comme quoi, parfois, naïvement... Nous, on peut croire que, comme la France est quand même un pays où il y a beaucoup d'aide, on peut tous aller bien un minimum, c'est parfois le genre de discours qu'on entend, mais en fait, l'accès même à ces soutiens financiers, là, on n'est pas du tout égal face à l'information, quoi.
Exactement.
Donc, c'est dommage, quoi. Si je pouvais le dire à tout le monde...
Clair, et c'est pour ça, tu vois, moi, j'en parle aujourd'hui à tout le monde, j'explique un petit peu des techniques un peu sneaky, pour lancer son entreprise. Mon expérience, tu vois.
C'est la débrouille.
Ouais, exactement, c'est la débrouille. Il y avait plein de choses que je ne savais pas à l'époque. Et toutes les personnes, tu vois, qui viennent, qui immigrent, elles ne connaissent pas tout ça. Parce qu'en fait, si tu veux, il faut savoir qu'au Bénin, et comme dans tous les pays africains, il n'y a pas de système de santé. C'est avec ton argent que tu te soignes. C'est pour ça que je m'inquiète aujourd'hui un petit peu pour eux. Mais dès que je peux envoyer de l'argent ou... mes parents, ils ont une association là-bas, tu vois. Dès que je peux envoyer je le fais parce que même eux, ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler parce qu'ils vivent au jour. T'en as plein qui vivent au jour le jour. Il n'y a pas de système de retraite.
C'est terrible, la pression, la charge mentale.
Ah, mais c'est clair. Tu vas voir au marché, tu as des vieilles qui ont 70, 75 ans qui portent des paniers sur la tête parce qu'elles doivent vendre. Puis elles vendent n'importe quoi, tu vois. Tu as des petits garçons, c'est vraiment. Bref, c'est un autre monde. Ouais. Donc, j'avais pas cette éducation, donc je ne savais pas. Je galère et mes parents, ils me laissent exprès galérer aussi, je pense, pour m'apprendre la vie en me disant, en fait, on quitte pas son boulot comme ça, faut que tu réfléchisses. Et bon, du coup, bref, je continue. Et en fait, mon père me dit, bon, maintenant, la solution, c'est que tu reprends tes études. Et ensuite, tu reviendras bosser avec moi. On fait un deal. Et je paye tes études. Sinon, je ne paye pas tes études. Et je fais, OK, bon, on le fait. Donc, je reprends mes études. Je fais un billet en finance. Moi, je voulais faire le MBA en finance. À ce moment-là, je commence à réfléchir pour être entrepreneur. J'ai mon frère qui lance une entreprise à côté, qui vend des stylos à l'étranger. Bref, il se casse la gueule, ça marche pas. Mais je me dis, OK, on peut... Enfin, je commence à réfléchir à être entrepreneur en me disant, OK, en faisant de la finance, moi, je peux gérer mon entreprise. Je vais bosser un ou deux ans avec mon père et après, je m'en vais, tu vois. Et superbe expérience, j'apprends beaucoup de choses. Bah, je postule aussi après pour travailler dans... Enfin, pour faire mon stage, ce que j'ai dit à mon père, ok, c'est bien, j'aime bosser avec toi au Bénin. J'ai pas du tout envie d'entrer au Bénin, par contre, mais bon, ouais. Je le fais. Mais par contre, laisse-moi prendre l'expérience ici pour pouvoir le faire, tu vois. Et je postule dans tous les trucs de finance, personne me prend. Faut savoir aussi qu'on te met dans des cases. Hein. T'as bossé dans le luxe, t'as fait du marketing.
Ouais.
Donc c'était compliqué. Et en fait, je suis pris au bon marché du groupe LVMH et je suis pris dans un truc qui a rien à voir en tant que chef de. Je ne sais plus, chef de secteur. Enfin bref, en gros, je devais manager des équipes, plusieurs personnes en fait, à faire des ventes, tu vois. Donc, je suis pris là et donc je rentre. Ça se passe hyper bien. Et après, j'appelle mon père. Je lui dis, écoute, ça se passe hyper bien. J'adore ça. J'adore ce que tu es en train de faire. Laisse-moi un an, deux ans. Je fais, si je trouve pas un emploi, je viens. Et si je trouve, je reste. Et bon, bah, il me laisse faire. Donc, je reste 4 mois. Je me fais débaucher. Je rencontre une autre personne qui a changé ma vie. Enfin, qui, en tout cas, c'est la deuxième personne pour moi qui était importante dans ma vie. Claire, elle s'appelle Claire, cette femme, c'est une chasseuse, enfin une chasseuse de tête. Et au bout de 4 mois, je la rencontre, elle a un litige, bref, je règle son litige, elle me donne sa carte, elle me dit, tenez, il y a un poste pour vous, enfin, il y a un poste qui se libère chez Burberry, pour que vous soyez, enfin bref, responsable de secteur, on va ouvrir au Faubourg Saint-Honoré, enfin voilà, toujours dans le luxe, hein, en fait... Ça se passe très bien au bon marché, mais je sais pas pourquoi je me suis dit que je suis en stage, je sais pas ce que ça va donner après. Ok, je prends le risque, je m'en vais. Et j'avais mon mentor à l'époque, je lui dis, écoute, je vais partir. C'était le directeur du bon marché. Je vais partir et tout. Il m'aimait bien, il me fait, écoute, tu fais une connerie, tu dois rester 2 mois, on va voir comment on va faire après pour te faire évoluer. Je fais, non, mais écoute, j'ai une possibilité, enfin, j'ai déjà fait une expérience. Ok, là, tu me vois en tant que stagiaire, mais j'ai une expérience quand même, je peux m'en sortir. Et en fait, bref, il me laisse partir, je pars. Un autre échec là-bas. Je m'entends. Enfin bref, en fait, je manage un mec qui voulait ma place. Donc, il avait 30 ans de maison, qui a toujours été vendeur, qui voulait ma place. Et je manage une fille avec qui je m'entendais pas, qui avait pas de, avait pas de dialogue. Je manage 4 autres personnes. Ça se passe plus ou moins bien. J'ai un poste. Il y avait une autre personne qui était sur un autre secteur, mais qui voulait mon poste. Bref, c'était...
Il n'y avait pas d'aliment des planètes,
non,
quoi.
Non, non, non. Il n'y avait pas d'aliment des planètes. Il fallait que je me batte tous les jours. Et au-delà de ça, j'avais ma boss, qui va être ma future boss dans mon nouveau... Enfin, dans une expérience future, qui était une raciste, mais comme pas permis, qui utilisait des mots, mais... Enfin, elle s'appelle Lydia Misto, mais c'est dame. Enfin, bref. Voilà. Et en fait, si tu veux, à un moment, enfin, on valide ma période d'essai. Donc, parce qu'au-delà de ça, enfin, cette fois, c'était ma N plus 2, mais ma N plus 1, ça se passait hyper bien avec elle. Malgré toutes les difficultés, bref, on valide ma période d'essai. Et en fait, un jour, un mois après, cette boss-là, celle qui est raciste, elle vient, elle me dit, bref, on me licencie. On me licencie parce que, je sais pas, ils trouvent une raison, je sais plus laquelle, manque de coordination avec mes équipes, manque de communication, enfin...
Ouais, prétexte fallacieux.
Exactement. Et on me licencie, j'en parlais à mes parents me disent, écoute, c'est pas grave, on va pas au prud'homme, c'est pas grave, tu vas trouver autre chose. Et j'appelle cette chasseuse de tête, Claire, et je fais, Claire, écoute, j'ai été licencié.
En plus elle avait entre guillemets une petite responsabilité parce que c'est elle qui t'avait dit va là-bas et elle savait pas qu'une des bosses était raciste.
En fait non, elle savait pas du tout parce qu'elle était en lien avec les ressources humaines et était en lien avec la directrice de boutique Audrey qui était bien tu vois donc elle savait pas du tout. Donc,
donc Ouais, tu lui en parles.
Ouais, je lui en parle, mais je n'en veux pas du tout. Au contraire, moi, j'étais content. Enfin, c'était mon premier gros échec. C'était mon premier échec pour moi, tu vois. C'était le truc où... Avant, j'ai toujours... Enfin, pareil, au bon marché, ça se passait bien. Quartier, j'ai toujours...
T'es toujours parti avant que ça se passe
ouais,
mal.
Ouais, et en fait, avant, j'ai toujours fait le job aussi, tu vois. Et là, c'était la première fois où je faisais pas le job. Enfin, je faisais pas le job. Où c'était très compliqué, tu vois. Et c'est ce que je dis aujourd'hui aux personnes. Je fais, quand ça se passe mal, franchement, partez. Enfin, la vie, elle est tellement courte. Faut pas
Faut pas se rassurer en se disant ça ira mieux.
Exactement.
Je pense que c'est la chose humaine et rationnelle à faire au début, c'est de se dire ça va aller, il faut que je prenne sur moi.
Ouais, ouais.
Mais t'as raison, je pense que c'est le bonheur et l'épanouissement ne se sacrifient pas.
C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Si en fait il y a plus de malheur que de bonheur, faut partir. C'est sûr et certain.
Le ratio est assez simple.
Hein, exactement, exactement. Donc, elle me dit t'inquiète pas, enfin bref, elle me trouve un autre job, donc je refais le même poste que je faisais, mais dans une autre entreprise, au printemps. Donc, manager des ventes, voilà, c'était le mot que je cherchais, manager des ventes. Au printemps, au secteur de la beauté, donc j'apprends énormément. C'est un secteur que je ne connaissais pas. J'ai toujours été dans la mode. J'apprends beaucoup. Et en fait, là, au printemps, je rencontre mon futur boss, Vincent. Et je lui donne 2-3. En fait, ils étaient en train de lancer le coach en France. Et je lui donne 2-3 conseils. Conseil entre guillemets, hein, parce qu'il m'a beaucoup appris.
Ouais.
Mais voilà, de ce que je voyais sur le terrain, parce qu'il n'était pas sur le terrain quand il a planté ses boutiques. On met ça en place, ça explose son truc. Il me dit, bah, tu ne veux pas bosser avec moi, là je recherche des personnes. Et je fais, écoute, j'aimerais bien, mais là j'ai une clause où je ne peux pas partir du printemps. Donc bref, on trouve un truc et je pars dans un autre... Enfin, je signe chez Coach et je vais en tant que premier vendeur dans une boutique à la Vallée Village. À l'époque, pour moi, c'était horrible de partir à la Vallée Village. Je suis parisien, j'ai toujours habité à Paris. Donc, je faisais 1 heure le matin, RER A, 1 heure l'après-midi. J'étais fatigué, mais bref. Je me suis dit, écoute, il me dit, on le fait pendant 6 mois. Et après, tu viens à Paris. Et là, ça a été vraiment la meilleure époque de ma vie parce que j'ai appris, j'ai mis beaucoup de choses en place. 6 mois après, je passe directeur adjoint. Non, je passe superviseur, ensuite directeur adjoint, ensuite directeur de boutique. Ensuite je passe directeur de réseau, ensuite directeur commercial, enfin, en fait j'ai une évolution tous les 6 mois jusqu'à un moment où cette dame là Lydia elle revienne, c'est un petit monde hein, en fait, à des mercato,
j'ai quand même pas de chance quoi, avec chez Burberry, elle arrive chez Coach quoi.
Ouais, elle arrive chez Coach, donc elle arrive, je dis à mes collègues là c'est fini pour moi, je sais très bien que ça se passera pas bien, mais en fait si tu veux, au début j'étais dans le en gros avant qu'elle vienne, il m'avait mis dans une sorte de... Comment on appelle ça? En fait, si tu veux, tu reçois tous les mails du leadership. Et parce que je faisais en fait son poste avant qu'elle vienne.
Ouais.
Tu vois? Et en fait, ils ont oublié d'enlever mon adresse mail du leadership. La connerie qu'ils ont faite, et je les remercie parce que c'est comme ça que j'ai pu partir aussi entre-temps.
Ouais.
Et elle me demandait des choses que son boss lui demandait. Et elle envoyait, mais c'était copier-coller ce que je lui envoyais.
Ouais.
Donc moi, en fait, si tu veux, c'est comme si tu fais tout le taf. Tu l'envoies à ta boss et ta boss ne te remercie pas. Tu peux le faire, hein. Elle ne te dit pas merci. Pour elle, c'est normal. Elle ne change pas ce que tu fais. Elle fait un copier-coller. Elle envoie en disant que c'est elle qui a fait ce boulot-là. En mettant pas ses équipes en valeur. Enfin, moi, j'ai toujours mis mes équipes en avant et tout, etc. Bref, donc pour moi, c'était peut-être problème d'ego ou pas, je ne sais pas, mais c'était plus possible. C'était plus possible.
Et tu n'as pas prévenu, parce que de ce que je comprends, tu connaissais quand même du coup bien le fondateur de Coach.
C'était le directeur France.
Ok.
Mais
celui qui a lancé en France, vous avez quand même une relation plus professionnelle.
Non, pardon, en fait, elle est venue prendre ça. Il est parti, en fait.
Ah ouais, d'accord, parce que j'allais dire, sinon, tu le prends pas un moment, tu te dis, écoute, je suis désolé, mais voilà, c'est une raciste.
Ah, mais c'est clair.
Il faut les exposer.
Ah ouais, bien sûr. Non, en fait, si tu veux, il est parti, et j'avais le DRH qui m'a recruté à l'époque, avec qui je m'entendais bien aussi, qui est parti.
Ah ouais.
Il y a beaucoup de turnover chez Coach. Il y avait plein de personnes qui étaient parties, donc on était. 3 directeurs de boutique à l'époque.
Et elle qui arrive au-dessus.
Elle
quoi.
Qui arrive au-dessus, tu vois. Donc, c'était compliqué de prévenir. Donc, bref, vu que ça se passait bien, en fait, j'ai été le meilleur directeur d'Europe, le plus jeune directeur. Enfin, j'ai toujours des performances. Mes boutiques ont toujours fait des gros chiffres, en tout cas des bonnes performances. Donc, j'avais une légitimité, si tu veux, auprès de plus haut, tu vois. Donc, quand il y avait le président qui venait, j'arrivais à montrer que j'allais. Donc, j'ai évolué un petit peu. Mais c'était eux qui m'avaient fait évoluer, mais pas elle, tu vois. Donc, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas signalé. Et en fait, un jour, donc je postule, pour être vice-président Europe, qui était son poste à elle. Je postule pour ce poste-là. En fait, elle avait le titre sans vraiment l'avoir, mais voilà, il y avait le poste qui s'est libéré. Et j'entends... attends, qu'est-ce que j'entends ? J'entends... bref, je passe dans les bureaux et j'entends elle dire avec la personne des ressources humaines « Non mais attends, on va quand même pas mettre en noir à la tête de l'Europe. » Et là, c'était le moment où pour moi, c'était... En fait, si tu veux, je gagnais très bien ma vie. J'avais un salaire entre, je sais pas, 8 et 10 000 euros net par mois. Ce qui était, pour moi, à l'époque, en tout cas, personne n'avait ce type de salaire. Dans mon entourage, personne ne l'avait. J'ai commencé au SMIC quand je suis rentré chez Coach. En fait, je m'accrochais à ça en disant « Ok, t'as déjà fait une connerie. »
Ouais, ouais.
Tu peux pas laisser ça,
tu vois. T'as fait plus ou moins l'erreur dont on parle, qui est de dire t'as sacrifié un peu en te disant ça va aller, demain ça sera mieux, quoi.
Exactement. Et tu peux pas faire ça, tu vois.
C'est revenu au galop, quoi.
Exactement. Et donc je dis, écoute, rupture conventionnelle, faut que je parte. Là, j'entends, j'ouvre la porte. Et je fais, c'est marrant parce que je viens de passer là. Et je fais un gros coup de bluff. Et je fais. J'ai juste enregistré ce que vous avez dit, donc là, c'est où vous me faites ma rupture, ou ça va au prud'homme. Ouais. Donc ils me disent, non, mais t'as mal compris, et tout, etc. Je dis,
l'enregistrement ment pas.
J'ai pas mal compris, c'est vraiment comme ça. Donc ils ont essayé de trouver des personnes qui allaient dire des choses contre moi, tu vois, enfin, ils sont allés voir...
Ils ne sont pas laissés faire.
Ah ouais, vraiment la politique, ils sont allés voir des personnes qui ont proposé de leur aider payer, leur donner une prime exceptionnelle, s'ils faisaient des faux témoignages sur moi, donc j'avais une bonne partie de ma team avec qui j'étais lié, donc ma team est venue me rapporter ça, il y en a d'autres qui l'ont accepté, qui ont pris le chèque, qui l'ont fait, mais entre-temps, j'aurais dit, ok, si vous voulez, on ira jusqu'au bout, moi j'ai ça, on va au prud'homme, on va voir ce qui va se passer. Et j'ai pu avoir ma rupture conventionnelle et je suis parti.
Donc là, tu touches le chômage.
Donc là, je touche le chômage. Et en fait, là, juste avant ça, Instagram, ça commençait à fonctionner. Avant ça, je commençais déjà à parler de mon expérience. Je parlais de mon expérience avec les réseaux sociaux. Je parlais du fait que j'ai eu des problèmes de hanche. La communauté me suivait surtout pour ça.
Donc ça, c'est en quelle année après pour qu'on se situe ?
Je suis parti quand de chez Coach ? 2016.
Ok, 2016. Ouais. Et donc, c'est aussi en 2016 que tu as commencé sur Instagram ?
J'ai commencé en 2012.
Oh ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, early adopter, comme on dit.
Ouais, ouais, okay. J'ai commencé au tout début, en 2012. En 2012, je postais des photos de chats, de bâtiments, enfin, comme tout le monde, quoi, tu vois.
Limite, ça s'appelait pas encore Babbel ou un truc comme ça au début. Non, quand t'as eu Instagram.
Ouais, Instagram, okay. Mais c'était le vieux truc. Là, c'était un logo de merde. Enfin, c'était... Enfin, je me souviens, c'était plus... Il n'y avait pas de stories à l'époque.
Ah ouais, non, c'est clair, ça arrivait bien après ça.
Ah ouais, exactement.
Ok, ok.
Donc, je postais ça. Et en fait, ce qui a fonctionné, c'est que le jour, j'ai posté une photo de moi à tête baissée. Je t'avais parlé de cette photo, non ?
Oui, ouais. Avec ton chapeau.
Exactement, avec mon chapeau, où on ne voyait pas ma tête. Et bref, je parlais de... Et ce qui est marrant, parce que je suis revenu, en fait, pendant un moment, peut-être ton message, enfin... Des fois, par paresse, tu postes une photo parce que voilà, tu as envie de poster une photo. Mais en fait, au début, je donnais énormément de conseils de développement personnel, de confiance en soi. Enfin, j'expliquais vraiment les choses profondément et j'avais ma communauté qui me suivait pour ça, tu vois. Et à un moment, je me suis perdu aussi. Mais bon, on en reparlera. Pourquoi je te parle de ça ?
Tu postes la photo tête baissée.
Voilà, je poste la photo tête baissée. Ouais. Cette photo, elle fait un gros buzz. À l'époque, pour moi, j'ai 1000 likes. C'était un truc de dingue. J'ai une centaine de commentaires. Je fais, what the fuck ? Comment cette photo, elle peut fonctionner ? Tu vois ? Enfin, j'essaie de comprendre. Je fais, ok, c'était la première fois où je postais une photo de moi. Et je reposte une photo le lendemain, juste moi, sans chapeau. Que dalle, ça marche pas. Et je fais, ok, d'accord, c'est pas moi. Ouais. Et je reposte une autre photo le jour d'après, pareil, tête baissée, et ça fonctionne. Et en fait, là. Et c'est ce que j'explique aujourd'hui quand je travaille, quand j'accompagne des personnes. En fait, c'est un concept qui fonctionne. Il faut être authentique, il faut être vrai, mais il y a le storytelling qui est hyper important. Donc, ce que les gens ils voulaient, c'était qu'ils ne voyaient pas ma tête. Ils voyaient je suis assez extravagant comment je m'habille. Là, après le confinement, je ne m'habille pas machin, mais je suis assez extravagant. Donc, on ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Et on ne savait pas qui c'était sous la photo, un peu comme les Daft Punk. Donc, d'une part, ça a touché les personnes. Et je pense que d'autre part, c'est que l'histoire, je racontais mon histoire. où en fait, ah oui, j'ai eu ce chapeau. En fait, je suis rentré, pendant que j'étais chez Coach, je suis rentré dans une boutique. Et une dame me dit, vous devez acheter ce chapeau, il va changer votre vie. Et elle me dit ça, je lui dis, enfin, pour moi, enfin, j'analysais tout, je suis, elle est très forte, elle fait, comment un chapeau va changer ta vie? Elle dit n'importe quoi, tu vois. Et j'ai eu plein de formations quand j'étais chez Coach, en sachant, enfin, il t'explique la morphologie, comment sublimer un vêtement, enfin, j'étais vendeur, hein, avant de monter, tu vois. Donc en fait, je savais que le chapeau, ça allait me donner une prestance et l'attention allait être portée sur la partie haute que sur la partie basse de mon corps, parce que des fois je peux boiter encore, tu vois. Et bref, donc du coup j'achète ce chapeau et en fait je raconte toute l'histoire autour de ça et voilà. Donc c'est comme ça que au début je me fais appeler de Black with the Black Hat, parce que je cherchais un nom, le noir au chapeau noir, je trouvais que c'était pas beau. Je cherche un nom qui est un peu plus marketing, un peu plus commercial, et je travaille mon identité, je travaille vraiment, je travaille ma personnalité pour la mettre en avant sur les réseaux. Et donc, pour ça, j'ai fait des études en marketing. Donc, j'ai vraiment marketé ça. Et c'est comme ça que j'ai eu ma communauté petit à petit. Et donc, Instagram, ça fonctionnait à l'époque. Je racontais mon histoire à ma communauté en disant, OK, ben, ils savaient que j'étais chez Coach. Pareil, je montrais des looks de chez Coach. Quand t'es une fille, comment tu peux assembler les vêtements et tout, etc. Et en fait, à un moment, je fais, bon, j'en ai marre. Je partirai, je sais plus ce que je donne comme date. Telle date, je m'en vais, je démissionne de chez Coach et je me lance en tant qu'influenceur et je lance ma marque. Et j'ai dit, pour le faire, en fait, là, il y avait déjà les stories. J'ai fait, je fais une story, je m'engage à le faire et je l'ai mis en actualité à la une. Et je fais telle date, je pars. Et en fait, si tu veux, j'ai ma communauté qui a commencé à me suivre. Je me suis dit, OK, il y a un truc à faire, faut que je parte. Je suis plus allé avec cette boîte. Bon, en même temps, je gagne bien, je peux pas partir. Enfin, bref.
Est-ce que tu savais que tu allais partir à l'époque? Il y avait déjà eu...
À l'époque, oui.
Gros... T'avais déjà obtenu ta rupture conventionnelle?
Non. En fait, okay. Dès qu'elle est venue, dès que cette femme, elle est venue, j'ai...
T'as posé un peu ce défi.
Ce défi en disant, OK, c'était en janvier, je fais à la fin de l'année, en décembre, moi, je m'en vais. Donc, je ne savais pas comment. Je me suis dit, bon, là, je vais packer un maximum pour pouvoir vivre et pour pouvoir lancer mon activité. Et entre-temps... J'ai eu ma première, c'était en 2016, où j'ai ma première opération rémunérée, et c'était avec Petit Bateau.
Okay. Donc,
Petit Bateau qui fait la campagne Strap in the City. On était trois, il y avait un Japonais, il y avait un Allemand qui avait beaucoup plus de followers que moi. Je crois qu'ils avaient 500 000, 1 million, je ne sais plus combien ils avaient. Et bref, la campagne, moi, on choisit mes contenus. Et ensuite, on prend mes droits ensuite pour les exploiter sur plusieurs supports. Et je fais « Waouh !» Enfin, comment c'est possible, tu vois? Et je crois que c'est Caroline qui me dit « T'as un potentiel de dingue. Vraiment, concentre-toi sur ce truc-là. Tu peux en faire quelque chose. Je m'y connais un peu. Essaie de pousser, de chercher d'autres partenariats. » Et là, je commence à chercher, à postuler, à envoyer des... Enfin, voilà, à voir... Enfin, je commence à découvrir le monde de l'influence. Et à côté, je me dis, bon, je sais pas combien de temps ça va durer ce truc-là, je commence à avoir des partenariats, mais j'ai toujours voulu lancer ma marque. Là, j'ai eu des belles expériences, mais là, si je lance pas ma marque, je pense que c'était la crise de la trentaine aussi, peut-être, si je lance pas mon business, je vais regretter. Et c'est là où je commence à chercher, à faire des prototypes, et j'étais encore chez Coach.
D'accord.
Et pour moi, je me disais que j'allais partir, en fait, que j'allais, je voulais pas démissionner parce que voilà.
T'as déjà eu la galère une fois, ouais.
Donc j'ai demandé dans un premier temps une rupture conventionnelle, on m'a dit non. J'ai demandé trois fois la rupture conventionnelle, on m'a dit non. Et en fait, les as se sont alignés. Et il y a eu cette histoire qui a fait que ça a facilité que je puisse avoir ma rupture.
D'accord.
Et donc je quitte Coach et là, c'était. C'est la meilleure décision. Enfin, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie, en fait, si tu veux. Dans le sens où, l'influence, je rencontre énormément de personnes, je fais mon réseau, je rencontre Guillaume, qui est mon mentor, Guillaume Gibault.
Comment tu l'as rencontré, Guillaume?
En fait, Guillaume, je l'avais contacté sur Instagram parce que j'étais fan, enfin, l'entrepreneuriat, je voulais apprendre énormément. Je le contacte sur Instagram pour le rencontrer et je pense que comme 150 personnes, il ne me répond pas. parce qu'il doit être trop sollicité, il ne me répond pas. Et en fait, un jour, il y a le compte Instagram Paris qui parle de, d'influenceurs à connaître, de top 10 influenceurs à connaître, et il parle de moi. Et il suivait ce compte-là, donc il m'envoie un mail en disant « Je viens de te découvrir sur un post, ça te dirait qu'on fasse un café, j'avais un truc à faire, mais bref, j'ai annulé, tout de suite, je suis parti. » Et c'est comme ça que j'ai rencontré, en fait, on devait prendre un café, enfin, il m'a dit « J'ai pas beaucoup de temps, c'est avant de travailler, 20 minutes, on restait 2 heures, on parle énormément, je lui parle de mon projet, il me dit « Écoute, ça me parle ton projet. » Je pourrais t'aider et tout, etc. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré, en fait.
Et donc là, ton projet, c'était de lancer ta ligne de chapeau.
Exactement.
Okay.
Donc c'était de lancer ma ligne de chapeau. Donc au début, j'ai toujours voulu lancer une marque de mode, de vêtements au début, tu vois. Et en parlant avec lui, il me dit, mais en fait, t'es connu parce que t'as un chapeau, il faut que tu partes sur un marché de niche avant de grandir. Enfin bref, on travaille toute la stratégie ensemble. Et il m'aide vraiment, il m'aide vraiment à lancer ma marque. Donc c'est-à-dire que en fait, on faisait un point tous les 2-3 mois. Après, j'ai fait pas mal d'erreurs aussi à côté.
Est-ce que tu peux juste nous parler peut-être de ces erreurs? Parce qu'en fait, je trouve qu'on apprend parfois beaucoup plus des erreurs que des succès. Mmh. Donc peut-être si tu peux nous partager quelques erreurs principales que tu as faites et qu'aujourd'hui, tu recommencerais pas.
Bah, en fait, dans un premier temps, il m'a dit qu'il fallait que je trouve un prototypiste. Donc, je tape prototypie sur Google. Le premier qui apparaît, ça s'appelait Industrie du cuir. Elle est surtout pas là-bas, la pauvre. Elle est adorable comme d'hab, mais c'était trop cher. Mm. Donc, je fais mon prototype, et mon prototype, il me coûte 3 000 € à l'époque pour faire un sac. Mm. Faut savoir qu'à la fin, enfin en tout cas maintenant, un prototype, j'ai pu avoir des prix à 250-300 €.
Ouais, c'est clair.
Donc, ça, c'est une erreur à faire. En fait, si tu veux, on a tellement envie de faire les choses qu'il faut prendre le temps d'analyser, de voir plein de personnes. Et avant elle, j'avais vu 2-3 autres prototypistes aussi qui me sortaient le même prix qu'elle. Tu vois, donc ça, c'est une erreur. C'est vraiment pour trouver son prototypiste. Dans un premier temps, il faut Google, mais il faut aller voir des maroquiniers, il faut aller voir des personnes qui peuvent être pas forcément vos concurrentes, qui vont vous donner
des infos.
Ouais. Et en fait, même si les marques ne veulent pas le faire, en fait, l'astuce qui va être importante, ça va être aller voir les fabricants. Donc, un vendeur, par exemple, dans une boutique d'indépendant, il va connaître l'endroit où tu vas le vendre, où tu vas avoir un cordonnier, il pourra savoir où est-ce que tu pourras trouver. Voilà, c'est ces erreurs-là que j'explique un petit peu dans mes formations à ne pas faire, tu vois. Donc, ça, c'est hyper important. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Le prix. En fait, je sortais du luxe. Donc pour moi, c'était normal pour moi de mettre un certain prix. Je sais pas, pour moi, acheter un sac à 495 €, ça me choquait pas parce que j'avais des cartes de Chinois, j'avais plein de Français, j'avais plein de touristes qui venaient, qui achetaient des sacs à l'appel et qui partaient. Mais en fait, ils achetaient ce sac-là parce qu'il y a Coach qui a marketé. La marque, elle est connue. Donc ils achetaient un logo, ils achetaient pas un sac. Tu vois ? Donc j'ai pareil en termes de matière. Moi, je voulais vraiment les meilleures matières. Donc, j'allais chercher un cuir taurillon. Enfin, c'était le meilleur cuir. C'est la fleur de peau de la vache, tu vois. Dans un premier temps, je pense que c'est bien de vouloir mettre des...
Des matières nobles.
Ouais, des matières nobles. Mais en fait, il faut... Enfin, c'est le prix qui va vraiment déterminer de vendre sa marque, surtout quand on n'est pas connu. Qu'est-ce qui va être important aussi, c'est... Pareil, la doublure. Je voulais une doublure, je voulais un tissu spécifique par doublure. Donc ça nécessitait d'aller chercher d'autres tissus. Alors que si j'avais uniformisé, j'aurais gagné en coût. En fait, la marge est importante, tu vois. Et tout est important pour la marge. Enfin bref, j'ai eu pas mal d'erreurs comme ceci aussi. Où le vendre? J'avais mon réseau. Et heureusement, vu que... Je gérais Printemps, Galerie Lafayette, j'avais ce réseau-là, donc j'ai pu distribuer mes produits-là. Mais en fait, en les distribuant, je me disais, ok, ils sont dans cet endroit-là. Je n'ai pas fait de Facebook Ads, enfin de Google Ads, enfin voilà, il y a pas mal de publicités que je n'ai pas fait aussi pour pouvoir référencer, tu vois. Qu'est-ce que je peux te sortir? Au total, j'ai perdu 100 000 €. 100 000 € en faisant des erreurs avec cette marque-là.
Okay.
Les salons. En fait, on me disait qu'il fallait faire des salons professionnels, donc il fallait faire Who's Next. C'est très bien, c'est un très bon salon, mais en fait, les salons, il faut les faire à partir du moment où ton prix il est correct, à partir du moment où tu as préparé ton salon. Ah oui, une erreur très importante que j'ai fait, le premier salon que je fais, donc on me dit, tu vas trouver tes fournisseurs, tes distributeurs dans les salons. Ok, j'ai mes produits, j'en avais 4, pour faire une collection, en fait, il faut un minimum de 9 produits et il faut décliner dans plusieurs modèles. Ça, je ne savais pas, tu vois. Donc, j'en avais 4, je viens et je n'ai pas contacté. En fait, moi, je dis au lieu de contacter, quand tu n'as pas le réseau, le printemps, les galeries Lafayette, va peut-être contacter un petit concept store qui va vendre ton produit et va en contacter, enfin, voilà, une dizaine comme ça qui ne sont pas sollicités parce que les gros, tout le monde les contacte et ça passe à la trappe.
Ouais.
Tout le monde leur envoie des cadeaux et ça passe à la trappe. Donc, tu vois, bah, c'était des erreurs que j'ai faites en offrant aussi des cadeaux, en les envoyant. Et en fait, le réseau que j'avais pas, par exemple, Merci ou Le Bon Marché à l'époque que j'avais pas, mais voilà, enfin, ils ne m'avaient pas contacté parce que je n'avais pas la bonne stratégie, tu vois.
Et pour toi, c'était essentiel d'être distribué ?
En fait.
Parce qu'à l'époque des DNVB, certains choisissent de se lancer d'abord uniquement en ligne.
En fait, ma marque, elle est digitale. En ligne, on fonctionnait très bien. Enfin, les gens, ils achetaient. Pour la première collection, c'était les chapeaux. La deuxième collection, en fait, j'ai fait des chapeaux et des sacs. Et si tu veux, il y a quoi, 2 millions, il y a combien, 3 milliards d'utilisateurs d'Instagram, je ne sais plus, on en a combien aujourd'hui, bref.
Ouais, ça doit être 3 milliards. Ouais.
Donc, à l'époque, je ne sais plus, je devais avoir 50, 60 000 followers. Je pense que j'avais épuisé, moi, mon réseau, qui avait énormément acheté. Mmh. Et pour aller chercher plus, donc il fallait faire de la publicité, mais enfin, je ne savais pas comment faire. Mmh. Il faut des vraies stratégies pour Facebook Ads ou Google Ads, il faut vraiment être expert. Mmh. Maintenant, j'ai appris à le faire, je sais comment le faire. T'as plusieurs canaux, t'as les influenceurs, t'as la publicité, t'as les distributeurs. Et pour moi, il fallait que j'ai les distributeurs parce qu'en fait, il y avait Guillaume qui m'avait parlé de ce mec-là. Il y avait un mec, j'ai oublié son nom. Il y avait un mec, ce qu'il a fait, c'était un coup de génie. Il allait dans des boutiques avec ses potes. En fait, il avait une trentaine de potes. Ils allaient dans toutes les boutiques en disant « Je cherche ce t-shirt-là. Je ne le trouve pas. Je l'ai acheté en ligne, mais je ne sais pas où est-ce que je peux l'avoir. » Et en fait, en faisant ça, dans plein de concept stores, il y a plein de concept stores, les vendeurs qui ont remonté. Ils ont cherché, ils ont pris en photo et ils ont... C'est Dia, je crois. Mohamed Diallo, je crois qu'il s'appelle. Il a lancé la marque Dia.
Ouais.
Je te parle, dans le temps, c'était en 90 hein, qu'il avait lancé ça.
Ah, d'accord.
Et c'était des suites qu'on mettait à l'époque, tu vois. Et voilà, en fait, c'était ça, sa stratégie.
Ouais.
Et en fait, bah, du coup, sa marque, il n'avait aucun réseau, il n'avait rien. Sa marque a été connue parce qu'il a fait ces stratégies-là.
Ça, c'est génial.
C'est un gros coup.
C'est un coup de maître.
Ouais.
Mais bon, après, c'est assez dingue aussi que les boutiques, parce qu'un mec vient le voir en disant « je ne le trouve pas », direct, ils achètent. Enfin, il aurait limite fallu qu'il emmène ses potes, qu'ils se relaient.
Ah, mais c'est ce qu'ils ont fait.
Ah, c'est ce qu'ils ont fait, ok. En fait, parce que je me dis, un mec, je pense pas, mais si trois fois quelqu'un vient en disant où est ce t-shirt, j'arrive pas à le trouver,
c'est
ce qu'il a fait.
Ouais, il a pris 30 personnes de son quartier, et tous les jours, ils allaient dans des concept stores différents demander ça. Et du coup, il a inondé le marché, et en fait, finalement, ils ont commandé les produits, finalement, ça a fonctionné, puisque tout le monde mettait ça, et les vendeurs le mettaient, parce que vu que tout le monde le mettait, tu sais, enfin, eux, ils le mettaient aussi.
Ouais, il y a une histoire de tendance.
Exactement.
Hein,
et en fait, donc, du coup, il a eu un gros buzz, et il a fait un gros chiffre, ce mec-là. Et du coup, il m'expliquait, enfin, ce que j'ai appris avec Guillaume et d'autres personnes, c'est que t'as ta marque qui va être digitale et c'est hyper important, mais il faut multiplier les canaux pour pouvoir être vendu. Après, ça dépend de la stratégie, tu vois. Ça dépend de chaque marque. Moi, je sais que ma marque, en fait, la première vente que j'ai eue, c'était une personne qui était au Canada. Donc, le réseau en ligne a fait que, mais à un moment, quand on a commencé à avoir beaucoup plus de commandes, moi, ça me saoulait de... Et je le dis, hein, ça me saoulait de faire mon packaging, de gérer, d'envoyer mes colis tout seul. Donc, je suis passé par une entreprise de logistique qui le fait pour moi. Mmh. Mais je me suis dit, OK, si je distribue un peu partout, et en fait, en discutant avec d'autres personnes, en me disant, ben, en fait, tu vas trouver un autre réseau, tu vas avoir un autre type de consommateur. Parce que moi, c'était ma cible, en fait, c'était mes followers qui achetaient. Aujourd'hui, elle a grandi. Mais enfin, j'ai des gens un peu divers, tu vois. Mais pour aller chercher ces personnes-là, pour moi, c'était important d'aller chez les distributeurs.
Ouais.
Ça dépend de la stratégie de chacun.
Ouais, non, mais c'est important d'en parler, parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas forcément, comme tu dis, les différents canaux de distribution et de vente.
Après aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, la clé, ça va être...
Le confinement.
Ouais, voilà.
Enfin, le Covid.
Exactement.
Non, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on écoutera ce podcast. Donc,
c'est
vrai que si c'est dans un an et que...
Ouais, c'est vrai.
Peut-être on a oublié, qui sait.
Ouais, c'est vrai.
Mais je pense que ça n'arrivera pas demain la veille.
Ouais, mais avec le Covid, c'est vrai que le digital, c'est hyper important. Ouais. Et moi, je l'ai vu, en fait, si tu veux, et notamment avec les lives, où nous, on a connu deux semaines. J'avais connu deux semaines juste après le Covid, où baisse de trafic, baisse de vente sur le chiffre. J'ai fait un live dimanche. Mon site il a explosé et je pensais pas parce que j'avais jamais utilisé le live. tu vois. Et enfin bref, ma communauté a relayé, ils en ont parlé tout autour d'eux. Il y a plein de personnes qui ont relayé.
Et c'était un live par rapport à ta marque ou même pas ?
Pas du tout. C'était pas du tout un live par rapport à ma marque. C'était une personne qui m'avait, Shina, qui m'avait contacté pour qu'on parle de mon histoire.
D'accord.
Et on parlait de mon histoire et en fait après j'ai parlé de ma marque et j'expliquais deux trois tips pour lancer une marque. Et en fait ils sont allés voir et en fait j'ai lancé une marque qui s'appelle un modèle qui s'appelle Enfant d'immigré, qui est mon best-seller. Et les ventes ont explosé et sur d'autres modèles aussi, tu vois.
D'accord.
Donc, comme quoi...
Donc, t'as découvert... C'est ça que je trouve qui est assez fort. C'est dans des périodes, a priori, extrêmement difficiles, que ce soit personnellement ou professionnellement, d'arriver quand même à en retirer quelque chose, que ce soit... une découverte de soi ou même des apprentissages. T'as découvert d'autres trucs, toi, pendant cette période
Moi, le confinement, c'était la meilleure période de ma vie pour moi. Enfin,
après coach ou avant coach? Parce que t'avais dit quand même que c'était
En fait, coach, j'étais... coach, c'était la meilleure partie de ma vie, une des meilleures parties de ma vie, parce que chez coach, je me sentais invincible. C'est-à-dire que tu fais une action, tu réussis l'action, t'en fais une autre, puis tu réussis, et en fait, ça te donne confiance en toi, tu vois. Et j'étais et à chaque fois que j'ai des moments de doute, et d'ailleurs, c'est ce que je dis à chaque fois aux personnes, rappelez-vous des moments où vous êtes senti bien, et en fait, prenez cet état d'esprit-là. Et moi, à chaque fois, j'ai un doute. Je pense à l'époque où, dès que je faisais un truc, j'étais au top, et hop, je me dis, si j'ai réussi à faire ça, je peux encore le faire. Et le confinement, ça a été l'une des meilleures parties de ma vie, parce que, tu sais, il y avait plein de choses que je voulais faire, que je disais, j'ai pas le temps, ou je le mettrai demain, ou et tout, etc. Donc la première semaine, moi, c'était une semaine de repos, en disant, bon, écoute, on est confiné, on va se reposer. En fait, mais quand j'ai compris que ça allait se prolonger, je me suis dit, qu'est-ce que j'allais faire ? Il y avait plein de livres que je devais lire. Donc, j'en ai pas lu beaucoup, mais j'en ai lu 6 ou 7 pendant le confinement, tu vois, alors que je les avais achetés, je les ai pas lus. Je voulais faire cette formation. En fait, si tu veux, j'avais déjà tourné des vidéos et je ne les avais jamais mis en ligne. En fait, j'ai lancé un système de formation où j'apprends de A à Z comment créer et lancer une marque et comment surtout lancer une marque rentable. Donc, quelle stratégie utiliser pour lancer la marque, toutes les stratégies que j'ai utilisées, tu vois, toutes les stratégies que pas mal de chefs d'entreprise ont utilisées. Parce qu'avec mon expérience, non seulement moi, j'ai mon expérience, mais dès que je faisais des événements, j'allais toujours parler aux fondateurs ou aux PDG. Je leur demandais tous les tips. Et ça, je le faisais pour moi, tu vois, pour avoir des tips pour pouvoir lancer ma boîte. Et en fait, le truc, c'est que je pouvais pas répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux, sur Instagram. J'ai pris le temps de... En fait, j'ai pris toutes les questions que les personnes m'ont posées et j'ai fait plein de PDF pour en répondre à leurs questions. Donc, c'est-à-dire que maintenant qu'elles me posent des questions, boum, je leur balance le PDF, tu vois. En tout cas, le lien pour pouvoir le prendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Enfin, voilà, j'ai pris vraiment le temps de faire ce qui m'importait. Et ça a aussi été la meilleure période de ma vie parce que j'ai passé beaucoup plus de temps avec ma copine. C'était un truc où tu sais, tu te lèves le matin, elle va travailler, tu vas travailler, t'es dans ton quotidien,
Surtout si tu thrives dans ton travail aussi, t'es pas forcément présent autant que tu voudrais dans ta relation.
Exactement,
quoi.
Exactement, tu vois. Donc en fait, on s'était mis des rituels où en fait, le matin, on se lève. Pour des gens, c'est peut-être des conneries, mais pour nous, c'est important. On se lève, on se regarde dans les yeux, on se dit qu'on s'aime. On prend le petit-déj ensemble, tu vois. On passe vraiment au moment où... le matin, le téléphone, on le met de côté, surtout moi, parce que j'étais tout le temps sur mon téléphone. Ouais. On le met de côté, on prend le petit déj ensemble. Une fois qu'on a passé ce moment-là, je me suis mis dans une sorte de rituel. J'éprouvais de la gratitude. À chaque fois, je dis aujourd'hui, je suis content pour cette journée parce que mes parents vont bien et tout, etc. Donc, il y avait des choses que je ne faisais pas, que j'ai mis en place, tu vois. Et puis, pareil, j'ai contribué, je ne sais pas à quelle hauteur. Mon site, le site de la marque Black Hats, je l'ai mis en stand-by et j'ai redirigé vers Emmaüs. Parce que quand j'étais en galère, j'étais chez Emmaüs pour acheter des vêtements et j'ai appris qu'Emmaüs, qui se finançait tout seul, allait fermer. Et pour moi, c'était important pour moi de soutenir cette association. Donc, tout le trafic, je l'ai dirigé vers Emmaüs. Finalement, j'ai remis le site hier soir en ligne. Il y a 5 millions d'euros qui ont été levés pour Emmaüs, tu vois. Donc, on sait qu'on a participé.
Ouais.
Donc, j'ai pu faire du bien. Ça m'a fait du bien. En quoi ça a été bien ?
Il y a déjà beaucoup de raisons. Hein.
Ouais.
Et par curiosité, c'est quel livre peut-être que tu as lu pendant ce confinement qui t'a marqué et qui t'a aidé ?
Il y en a deux qui m'ont marqué, Phil Knight et L'Art de la Victoire. Tu l'as lu ou pas ?
Je l'ai conseillé, je l'adore.
Ouais, il est génial.
Ah, je l'ai dévoré.
Ouais.
Il se lit très facilement.
Ouais, exactement. Et en fait, il y a un que j'avais déjà lu, que j'ai relu, en fait, c'est Chicken Soul for the Soup.
Ah ouais, non, pas
contre, j'ai celui-là. J'ai oublié le nom de... Attends.
Mais sinon, je regarderai, je mettrai...
Attends, je vais dire, parce qu'en fait, je l'ai recommandé il n'y a pas longtemps à... Attends, je l'ai recommandé à une pote. Jack Canfield. Jack Canfield, donc okay. Chicken Soul for the Soup. Et en fait, c'est un mec qui voulait appeler, comme quoi c'est le marketing qui fonctionne. Il voulait appeler son, enfin, il a écrit son bouquin, il avait pas mal d'éditeurs. On lui a dit, en fait, oui, on va te l'éditer, on va le produire, mais il faut que tu changes le titre. Il disait, non, mais moi je veux que ça s'appelle Chicken Soul for the Soup. Il fait, non, mais c'est invendable. En fait, c'est devenu un best-seller, c'était un best-seller son livre, tu vois.
Ouais, et c'est pas un livre intuitif en termes de titre. Je sais pas comment le traduire en français,
mais. Bouillon, c'est quoi, c'est bouillon de poulet pour l'âme.
Exactement,
et c'est clair, c'est pas du tout le. Mais franchement, je veux pas te spoiler, mais il se lit facilement.
Ouais.
Il est incroyable. Et en fait, en le relisant, tu le. Enfin, en tout cas,
tu
découvres de nouvelles choses. Donc, il y a ces deux-là qui m'ont parlé.
Ok, trop cool.
Donc
bon,
voilà.
Alors, l'heure tourne. C'est un des podcasts pour l'instant les plus longs que
j'ai. Pardon, je suis très bavard.
J'adore. Moi, franchement, j'écouterai des podcasts de 2 heures et j'en écoute, mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde.
Ouais.
Mais que, en tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que sur InPower, la majorité des gens écoutent jusqu'au bout. Mais du coup, je vais te poser la question signature du podcast. Et dans tous les cas, ce qui est cool, c'est que comme tu es aussi créateur de contenu, on peut trouver ton histoire et tes vidéos dans tous les cas sur Instagram ou sur YouTube.
Exactement.
Pour celles et ceux qui ont été interpellés. Mais du coup, la question signature, c'est ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ?
C'est une très bonne question, ça. En fait,
c'est mon mantra.
Non, mais c'est génial, c'est génial. En fait, pour répondre à ta question, prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est beaucoup de choses. Je suis certain qu'on est tous avec un talent. Et je dis tout le temps, il faut trouver son talent. Alors, beaucoup de gens vont te dire, ok, c'est sympa, mais comment je trouve mon talent ? Ou sinon, non, j'ai pas de talent, ou c'est compliqué. On a tous un talent. Donc, moi, ce que j'utilise quand j'accompagne des personnes en coaching pour lancer leur entreprise ou pour se créer un revenu à côté, c'est que je pars de ce principe, et on pousse beaucoup plus, c'est de compter de zéro jusqu'à un certain moment de ta vie. Et en fait, il y a un âge de ta vie, un truc qui t'a impacté. Et en fait, on travaille sur ça et c'est là où tu trouves le moment pour ce pourquoi t'es né. Bref, pourquoi j'utilise ça ? Ça permettrait de savoir quelle est ta raison de vivre. Ça permettrait de savoir, en tout cas, ou ce qui t'a fait te sentir bien, ou ce qui t'a fait te dire ce qui t'a fait te sentir mal, tu vois ? Et en sachant cela, c'est ta raison de vie et c'est pour ça que tu sais pourquoi il faut que tu prennes contrôle de ta vie.
Ouais.
Et je repose souvent la question. La question, c'était quoi ? C'était.
Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ?
Donc, la question prendre le pouvoir de sa vie, c'est tout simplement ne pas tolérer que d'autres décident pour toi. C'est ne pas tolérer que d'autres décident pour toi, c'est-à-dire que tu es né pour une raison. Enfin, il y a des milliers de spermatozoïdes, il y en a un seul qui arrive à faire une personne. Donc, c'est-à-dire que déjà, depuis tout petit, il s'est battu pour que tu existes, tu es arrivé dans le monde. Et moi, à chaque fois, je dis aux personnes qui ont failli être, dont les parents ont failli les avorter encore plus, ou qui ont des difficultés à naître encore plus, parce qu'en fait, t'as une mission de vie, et donc, si t'as envie de, je sais pas, voyager, bon, en ce moment, après le Covid, c'est compliqué, voyage. Si, en gros, il faut laisser une trace sur ces terres, et on vient pour laisser une trace sur ces terres, donc pour moi, prendre le contrôle de sa vie, c'est de plus subir. On ne peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un, tu vois, c'est cette phrase que je sors.
Très, très belle phrase.
Ouais.
Je crois que ce sera peut-être le titre de l'épisode. Bah écoute, trop cool, on a de quoi faire. Bah écoute, merci beaucoup
merci
d'être venu sur InPower.
Merci à toi Louise, je suis désolée, j'étais trop bavard.
Ah non, mais franchement, sur le podcast, c'est jamais trop. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux les rediriger ?
Alors, sur mon site internet steveonkponou.com, steveshounkponou.com.
Ce sera dans les notes du podcast, au pire.
Exactement, et sur mon site internet, il y a mon compte Instagram, c'est le même nom, steveonkponou. Il y a ma chaîne YouTube, c'est le même nom, steveonkponou. Il y a ma chaîne Facebook, ça s'appelle En finir avec les excuses. Parce que le but pour moi, c'est qu'on en finisse avec les excuses et que...
Et
qu'on se développe, exactement, qu'on prenne le pouvoir de sa vie.
Super, bah écoute, à très vite j'espère Steve.
Merci beaucoup Louise, à très vite.
Merci de vous être joint à notre conversation avec Steve. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en nous taguant @mybetterself et @steve.onkponou pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis qu'il pourrait inspirer et vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes qui arrivent. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs auditeurs et auditrices du podcast et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.